Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église est consacrée principalement à la poursuite du voyage apostolique du pape en Slovaquie. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Guinée, en Ouganda et au Maroc, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons avec la poursuite du 34e voyage apostolique du pape François en Hongrie et en Slovaquie, notamment les activités de la journée du mardi 14 septembre. Journée intense, la troisième du pape en terre slovaque. Dans la matinée, le Saint-Père a repris son bâton de pèlerin pour se rendre en avion de Bratislava à Košice, la deuxième ville du pays, capitale de la région orientale du même nom et à 20 km de la frontière hongroise. Il a été accueilli à l'aéroport par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bernard Bobert, le maire et les autorités locales. Košice est la capitale de la Slovaquie orientale avec environ 240 000 habitants, avec un siège de l'éparchie gréco-catholique, l'archidiocèse catholique romain et le siège du métropolite oriental. De là, le pape s'est rendu en voiture vers la ville de Prešov, où il était attendu au palais des sports pour la célébration de la divine liturgie. Il s'agit de la première divine liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome, présidée par un pape en Slovaquie. En cette fête de la croix glorieuse, le Saint-Père a proposé une méditation sur le mystère de la croix. Celle-ci ne doit pas être réduite à un objet de dévotion vide de sens. Elle est le lieu où le Christ nous enseigne à aimer et témoigner. Les détails avec Adélaïde Patrignani.
Devant 50 000 fidèles environ, le pape a commencé par un constat. Aux yeux du monde, la croix est un échec. Le danger serait de s'arrêter à ce premier regard superficiel. La grande tentation a mis en garde François serait d'adhérer à un christianisme triomphaliste, alors qu'un christianisme sans la croix est mondain et devient stérile. Mais dans l'évangile, Saint Jean nous porte au-delà des apparences de défaite. Il a reconnu dans le Christ crucifié la gloire de Dieu, un Dieu qui nous rejoint dans la souffrance. Grâce au crucifié, nous ne sommes plus seuls. Seul jamais, rappelle le pape. Il faut donc regarder la croix avec le cœur, prendre le temps de se laisser toucher.
Non riduciamo la croce a un oggetto di devozione.
Ne réduisons pas la croix à un objet de dévotion, a demandé le pape. Encore moins un symbole politique, un signe d'importance religieuse et sociale. Au contraire, la contemplation du crucifié conduit à un témoignage authentique. François a mentionné l'exemple des martyrs slovaques avant de dresser le portrait type du témoin de la croix d'aujourd'hui. C'est avant tout un chrétien à l'école de l'amour humble du Seigneur. Parce que la croix ne veut pas être un drapeau à élever, a déclaré le pape, mais la source pure d'une nouvelle façon de vivre. Cette sagesse de la croix portera toujours du fruit bien plus que la puissance du monde. Veux-tu être mon témoin ? Telle est donc la question, a conclu le souverain pontife, que le Seigneur pose aujourd'hui à chacun dans le silence vibrant de la croix.
C'était Adélaïde Patrignani sur la divine liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome, présidée par le pape à Prešov. Le père André Loski, professeur de théologie à l'Institut Saint-Serge de Paris, nous explique certains aspects de la divine liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome. On l'écoute.
Saint Jean-Chrysostome a vécu d'abord, a exercé d'abord à Antioche, puis ensuite à Constantinople. Par comparaison avec des homélies qui sont bien de lui, on a trouvé une prière attribuable à Saint Jean-Chrysostome, prière eucharistique, donc la messe, qui est un canevas, c'est du 3e siècle, qui contient des expressions qui sont bien de lui. Depuis, le texte est resté très très stable. Et la particularité vraiment chrysostomienne, c'est d'appeler Dieu avec des termes négatifs, toi qui es un Dieu inexprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, ces quatre termes négatifs que l'on trouve chez Saint Jean Chrysostome. L'autre particularité qui est liée à ce que je viens de dire, c'est qu'il les attribue aux trois personnes de la Trinité. Parce que Dieu soit inaccessible, d'autres l'ont dit avant lui. Ça s'inscrit dans la théologie, ce qu'on appelle apophatique, c'est-à-dire on déclare ce que Dieu n'est pas. Parce que Dieu est encore au-delà de ce qu'on peut déclarer. Il y a quelques variations d'accent, on pourrait dire, à l'intérieur du rite byzantin, mais la liturgie de Saint Jean Chrysostome est utilisée d'une manière extrêmement courante. Il y a énormément de parties dialoguées. L'important pour la conscience orthodoxe, c'est que le chant continue à supporter la parole, et que le chant n'est pas un ornement qui vient mettre un petit peu d'ambiance musicale à une prière qui s'exerce par ailleurs.
C'était le père André Loski, professeur de théologie à l'Institut Saint-Serge de Paris, propos recueillis par Delphine Allaire. Ensuite, la journée du pape dans la ville de Košice s'est poursuivie avec la rencontre de la communauté rome du quartier Lunique 9 à Košice, à laquelle le pape François a adressé les vœux et les salutations chaleureuses. François a également rencontré les jeunes au stade Lokomotiva de Košice. Puis, le pape est retourné à Bratislava dans la soirée. Retour à présent à la journée du lundi 13 septembre, deuxième journée de la visite du pape en Slovaquie, notamment à la rencontre du pape avec la communauté juive de Bratislava. Dieu bénit les frères qui s'aiment et se respectent, a martelé François qui a dédié un temps spécifique à la communauté juive de Slovaquie décimée par la persécution nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre s'est tenue sur une place de Bratislava où se situe un mémorial de l'Holocauste.
François a d'abord rappelé qu'autrefois s'élevaient une cathédrale et une synagogue sur cette place, signe de la cohabitation pacifique des deux communautés, symbole rare et d'une grande portée évocatrice d'unité au nom du Dieu des Pères. Par la suite, cependant, le nom de Dieu a été déshonoré, a regretté François, évoquant les 100 000 juifs slovaques exterminés et la destruction de la synagogue durant la Seconde Guerre mondiale. Le pape a exprimé toute sa honte pour la persécution nazie qui fut exercée à l'époque par un État slovaque théoriquement indépendant mais lié à l'Allemagne et dirigé par un ecclésiastique, Joseph Tiso. Le pape a dénoncé ce régime national-catholique en des termes très clairs. Il est écrit « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Combien de fois le nom ineffable du Très-Haut a été utilisé pour commettre des actes indicibles d'inhumanité » a-t-il dénoncé. « Votre histoire est notre histoire, vos souffrances sont nos souffrances » a martelé l'évêque de Rome, le pape qui appelle juifs et chrétiens à s'unir dans le combat contemporain contre les vaines et fausses idoles, celles du pouvoir et de l'argent, de l'indifférence qui détourne le regard des manipulations qui instrumentalisent la religion. Selon le Talmud, qui détruit un seul homme détruit le monde entier et qui sauve un seul homme sauve le monde entier, a-t-il conclu, citant ce texte fondamental du judaïsme.
L'actualité de l'Église nous conduit à présent au Burkina Faso pour parler de l'émission de vœux solennels de frère Joseph-Marie de la Providence divine Bazier, qui a intégré de façon définitive la famille religieuse des Carmes.
La célébration a eu lieu au sein du Carmel de Bobo-Dioulasso sous la présidence de Mgr Paul Ouedraogo, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso. Après avoir prodigué d'utiles conseils au nouveau prophète, il fait comprendre à lui et aux autres ceci.
Quel est le principal obstacle dans la vie religieuse? Ne vient pas du dehors, il vient du dedans, du cœur des hommes. C'est ce cœur-là qui a continuellement besoin d'être dépouillé de tout ce à quoi il s'accroche.
Partant de l'évangile de Marc sur l'envoi en mission des disciples deux par deux, Monseigneur retient trois consignes de Jésus qui lui semblent importantes pour la vie religieuse.
Attention aux témoignages solitaires. Attention au manque de confiance en Dieu. Attention au succès de votre mission. Cela peut amener le cœur humain à se gonfler d'orgueil.
Après leur avoir développé ces consignes, il conclut par ce conseil.
Plus votre cœur sera libre par rapport aux biens économiques, libre de tout attachement concurrentiel avec le Christ, et libre de votre propre volonté, plus vous serez des religieux selon le cœur de Jésus.
Paul Dame, Ouagadougou pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, une nouvelle supérieure générale chez les filles de Marie, servante du diocèse de Bouta.
Deux anciennes supérieures générales font partie du nouveau conseil général de la congrégation des sœurs filles de Marie Servante du diocèse de Bouta dans la province du Bazouélé. Les religieuses étaient réunies en chapitre général au cours duquel elles ont élu un nouveau conseil général pour un mandat de 5 ans. La sœur Thérèse Zangala Menadomia devient la nouvelle supérieure générale. La vicaire générale, sœur Pauline Odia, est une ancienne supérieure générale, tout comme la sœur Catherine Nebandrandro, élue conseillère générale avec les sœurs Goretti Masongi et Sylvie Makambo. Monseigneur Hyacinthe Nyekumbo, vicaire général du diocèse, a supervisé les élections. Il était délégué de l'administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Bertin Nadonier, évêque de Lolo. Le père Célestin Chimbundu, prêtre du Sacré-Cœur, venu de Kisangani, a animé le chapitre général sur le vécu du charisme. Sœur Thérèse Zangalamé.
Notre charisme, c'est vivre la disponibilité de la Vierge Marie, l'humble servante. Le Père Célestin Chimbundu a essayé de nous encourager à concrétiser cette disponibilité dans nos communautés et ensuite dans nos milieux d'apostolat, de la santé, l'éducation, les œuvres sociales.
Jean-Baptiste Malenge Kalonzo pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont annoncé leur intention de rouvrir à partir de mercredi les frontières terrestres avec les pays voisins fermées depuis le putsch pour certaines et depuis des mois pour d'autres. La junte avait aussi fermé les frontières aériennes après le putsch qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre, mais elle les avait rapidement rouvertes. La junte a demandé aux services concernés de procéder immédiatement à une évaluation sécuritaire et sanitaire en vue de l'ouverture graduelle de ces frontières terrestres, à commencer par celle avec la Sierra Leone d'ici au 15 septembre. Les pays africains doivent mettre la lutte contre le changement climatique au cœur de leurs efforts de redémarrage post-pandémique, notamment en développant les énergies renouvelables pour alimenter leur développement futur, insiste un rapport publié mardi. Une focalisation étroite sur la relance économique, laissant de côté le changement climatique et les objectifs plus larges du développement durable, causerait plus de dégâts économiques à long terme, avertit ce rapport sur une relance post-Covid verte et soutenable, publié par 3 ONG du continent. Au moins 480 civils ont été tués dans des attaques djihadistes au Burkina Faso entre mai et août. C'est ce qu'a affirmé lundi le Conseil norvégien pour les réfugiés, une ONG qui pointe des besoins humanitaires urgents dans le pays. L'ONG norvégienne s'alarme également dans un communiqué de la recrudescence du nombre de déplacés ces derniers mois, avec plus de 275 000 personnes contraintes de fuir une nouvelle flambée de violence depuis avril.
Radio Vatican, France et Afrique. Marie-Josée Moindo.
Les autorités ougandaises ont abandonné lundi les poursuites pour blanchiment engagée contre l'avocat des droits humains du pays, Nicolas Opio, alors que l'inquiétude grandit concernant la volonté de Kampala de resserrer son emprise sur la société civile. Les autorités marocaines ont annoncé mardi avoir démantelé dans le sud du pays une cellule terroriste affiliée au groupe djihadiste État islamique et arrêté 3 suspects. Selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire, les 3 suspects arrêtés dans la ville d'Erachidia et âgés de 21, 27 et 37 ans planifiaient des crimes terroristes et avaient choisi comme cible imminente d'assassinat une personne travaillant dans un service d'utilité publique.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la justice et la paix avec Donatien Niembo.
Notre magazine de ce jour sur la justice et la paix se penchera vers l'appel de Denis Mukwege à la création d'un tribunal international pour la République démocratique du Congo. Le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, avait appelé vendredi à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, dont l'Est est en proie aux violences armées depuis plus de 25 ans. Malgré l'état de siège instauré dans les Kivu et en Ituri depuis début mai, la situation sécuritaire ne semble pas s'améliorer dans ces provinces, écrit dans un communiqué Denis Mukwege, évoquant avec effroi les récentes tueries qui ont fait des dizaines de morts dans les territoires de Beni et Irumu. Les populations vivent dans la peur et l'horreur, en dépit de la présence dans la région de la force de l'ONU MONUSCO en appui à l'armée congolaise. Pour lui, cette situation tragique et scandaleuse n'est plus supportable. Face à l'échec des solutions politiques et sécuritaires, nous sommes convaincus que le chemin de la paix durable passera par le recours à tous les mécanismes de la justice transitionnelle, estime le prix Nobel. Alors que les dirigeants du monde entier prendront prochainement la parole à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, nous exhortons le président congolais Félix Tshisekedi à solliciter l'aide des Nations unies et l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité pour mettre en place sans tarder une équipe d'enquêteurs, dit-il. Selon le docteur Mukwege, médecin exerçant au sud Kivu, ces enquêteurs devront exhumer les nombreuses fosses communes dans l'est du pays, collecter et préserver les éléments de preuve d'actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Le président congolais doit aussi, ajoute-t-il, demander de manière expresse aux Nations unies l'établissement d'un tribunal pénal international pour la paix et le soutien à la mise en place des chambres spécialisées mixtes pour rendre justice aux victimes des crimes les plus graves. Il doit aussi concrétiser son engagement à faire adopter une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle, poursuit Denis Mukwege. Il faut mettre fin à la culture de l'impunité qui alimente les conflits dans notre pays depuis les années 1990, conclut-il. Rappelons que dans une résolution adoptée jeudi 17 septembre 2020, l'année dernière, sur la situation en République démocratique du Congo, le Parlement européen avait invité les États membres du Conseil de sécurité des Nations unies à demander la création d'un tribunal pénal international qui ferait progresser les cas avérés de violations de droits de l'homme remontant à avant 2002. Les députés européens apportaient ainsi leur soutien au plaidoyer du prix Nobel de la paix congolais, le docteur Denis Mukwege, en faveur de la paix dans l'est du pays, proposant notamment la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les graves crimes contre la population civile. Tout en se félicitant de l'engagement ferme du docteur Mukwege en faveur des travaux entrepris dans le rapport 2010 des Nations Unies sur le projet Mapping, le Parlement européen avait déclaré soutenir dès lors les propositions visant à créer des chambres mixtes spécialisées dans les tribunaux de la RDC afin de permettre au pouvoir judiciaire de la RDC et à la communauté internationale de coopérer et de poursuivre en justice les auteurs d'atteinte aux droits de l'homme. à l'endroit des autorités congolaises. Les députés européens avaient souhaité le réexamen des travaux de sa précédente commission Vérité et Réconciliation. Ils ont par ailleurs apporté leur soutien à la demande adressée par le président Tshisekedi à son gouvernement en vue de la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle qui jugerait les crimes les plus graves. Dans la résolution, le Parlement européen n'avait pas manqué de rendre hommage aux défenseurs des droits de l'homme en RDC. Les députés avaient aussi condamné fermement les arrestations arbitraires en ce temps-là de Lucien Biamungu Munganga et d'autres membres de la Lucha, une organisation de défense des droits de l'homme basée dans l'est du pays, tout en demandant leur libération inconditionnelle et immédiate. Dans une déclaration, le Comité laïque des coordinations CLC, une organisation locale composée d'intellectuels de confession catholique, avait salué cette recommandation du Parlement européen aux membres du Conseil de sécurité.
Restons avec Donatien pour la rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux.
Commençons cette rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux par le symposium international qui est en cours du 13 au 15 septembre 2021. Organisé par le Conseil écuménique des Églises et l'Association mondiale pour la communication chrétienne, cet événement de 3 jours associe les interventions de théologiens de renom et des simples innovateurs et innovatrices à des études de cas révélant les conséquences de la justice numérique sur notre vie quotidienne. L'objectif du symposium est d'explorer les défis de la communication numérique sous l'angle de la justice sociale et d'identifier les possibilités d'action concertées et conjointes avec les communautés de foi et entre les organisations religieuses de la société civile, universitaire, médiatique et technologique. Les personnes participantes étudient les conséquences de la transformation numérique sur les communautés humaines et les sociétés. L'événement est co-organisé entre autres par Pain pour le Monde, l'Église évangélique d'Allemagne, l'œuvre missionnaire évangélique en Allemagne et la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants. Les fruits du symposium, études, expériences vécues dans des différentes régions et au sein de communautés marginalisées, exposés des spécialistes sur les tendances économiques et politiques, réflexions éthiques et théologiques seront compilés pour contribuer à la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises en septembre 2022. Au Kenya, les chefs religieux se sont unis pour sensibiliser au risque de la pandémie. Il y a 240 000 personnes infectées par le Covid-19 au Kenya et plus de 4 700 en sont mortes, malgré une campagne de vaccination qui, jusqu'à présent, n'a touché que 1,5% de la population. En traitant les risques posés par la variante Delta du virus, augmente. Selon les données publiées par le ministère national de la Santé, elle est responsable de 97,6% des infections dans le pays. Face à ce scénario alarmant, les chefs religieux du comté de Mombasa ont publié une déclaration commune déplorant le laxisme et la superficialité avec lesquels les citoyens considèrent les mesures d'assainissement anti-pandémie, appelant chacun à prendre ses responsabilités afin de protéger sa santé et celle des autres. Nous avons tous le devoir de préserver nos vies, celles de nos proches et de nos voisins, ont souligné les chefs religieux. Toutes les religions nous appellent à cette tâche et c'est pourquoi nous voulons que tous nos fidèles comprennent l'importance de prendre les plus grandes précautions pour contenir la pandémie de Covid-19. Cette note commune, également signée par des représentants musulmans et pentecôtistes, s'accompagne d'une campagne de sensibilisation de la population et de la distribution de masques et des gels désinfectants coordonnée par le père Richard Hérault, responsable de la commission pour les dialogues interreligieux et l'écuménisme de l'archidiocèse de Mombasa. Ne faites pas taire les critiques, surtout les critiques constructives, car c'est d'elles que peut venir une solution à la crise nationale que connaît le Nigeria. Telle est l'invitation adressée au gouvernement par l'Association chrétienne du Nigeria, dont la conférence des évêques catholiques est également membre. Dans une note datée du 1er septembre, l'organisme chrétien écrit « Nous demandons instamment au gouvernement de ne pas bâillonner le peuple et de ne pas considérer ceux qui parlent des manquements des autorités comme des ennemis à intimider, à poursuivre comme de proie et à arrêter. » Il s'agit plus précisément de l'affaire du commodore de la marine à la retraite, Kunle Olaouni, qui a été convoqué par l'agence de renseignement IFESA après avoir affirmé dans les médias nationaux que les chefs de l'État Muhammadu Buhari refusaient d'enquêter sur des hommes politiques de premier plan désignés comme leurs partisans par les terroristes de Boko Haram. Il convient de rappeler que depuis 2009, l'ensemble du Nigeria vit dans la peur causée par les attaques des extrémistes islamiques de Boko Haram et les violences pour le contrôle de l'eau et des ressources agricoles. Intimider les personnes critiques, peut-on lire dans la note, ne fera qu'aggraver la situation en accentuant les divisions et en alimentant les tensions, alors qu'au contraire, une critique positive peut aider à aller à la racine de problèmes et à les résoudre. Un autre appel est adressé à tous les citoyens pour, d'une part, respecter ceux qui dirigent le pays en leur rendant l'honneur qui leur est dû, d'autre part, exercer leur droit à la liberté d'expression afin de toujours dire la vérité sans crainte, même face aux politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Nous exhortons une fois de plus les Nigérians, conclut la note, à fuir la propagation de fausses nouvelles, car cela est néfaste et totalement inutile.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboile qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.